Le récit se fit plus classique, émaillé de fortes pensées, telles celles de Saint-Loup. Mais non, le milieu n'a pas d'importance. Et avec la même force que s'il avait peur que je l'interrompisse ou ne le comprisse pas. La vraie influence, c'est celle du milieu intellectuel. On est l'homme de son idée. Fabrice retrouvait toute sa joie d'interpréter un texte qu'il vénérait, d'autant qu'arrivait un passage exquis entre tous, celui où le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui. Il rend hommage aux demoiselles du téléphone, traitées tour à tour de vierges vigilantes, d'anges gardiens, de toutes puissantes, de Danaïdes de l'invisible, d'ironiques furies qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crie cruellement « J'écoute !» De servantes toujours irritées du mystère, d'ombrageuses prêtresses de l'invisible, de filles de la nuit, de messagères de la parole, de divinités sans visage, de capricieuses gardiennes. « Vous conviendrez, remarqua Madame de Custière à ses nouveaux amis banlieusards, que tous ces qualificatifs ont plus de grâce que le banal standardiste. »« Standard quoi ?» s'étonna Farid, qui, de la génération des smartphones, ne pouvait concevoir qu'il y ait eu une époque où l'on avait besoin d'un truchement humain pour échanger au téléphone. « Et je parle même, insista la délicieuse dame, d'un temps d'avant le 22 à Asnières. »« Le 22 quoi ?» Constatant la vitesse à laquelle les références perdent de leur pertinence, Madame de Custière renonça. La séance s'acheva avec la projection sur le mur de l'envie de Giotto, représenté avec un serpent dans la bouche, une de ces grandes figures allégoriques d'Ixit le héros que Swann m'avait donnée. C'est lors de cette séance qu'était intervenue la deuxième liberté prise par Fabrice avec le texte. Cette fois encore, elle échappa au public auquel il restait une chance de la débusquer lors d'une dernière occurrence dans le temps retrouvé, pour autant que le sexagénaire parvint jusque-là. Le lendemain, vendredi, François, qui inaugurait sa nième nouvelle formule, titra « Tout sur Fabrice Pelletier, sauf l'essentiel ». L'article se plaignait du blackout sur lui, s'interrogeait sur ses raisons, cherchait des causes inavouables. Pendant qu'il survolait ce journal, soucieux, Antoine reçut Véronique Aubouy, une dame aussi piquante que charmante, connue du microcosme des Proustiens branchés nouvelle technologie. C'était la créatrice du baiser de la matrice. Ce projet, accessible désormais sur Internet, invitait qui le voulait à lire devant sa webcam deux pages de la recherche attribuées aléatoirement. Au bout de 20 ans, elle considérait, après avoir eu la participation de plus d'un millier de lecteurs, en avoir pour encore 20 ans. Elle souhaitait rencontrer Fabrice et lui exprimer son admiration. Antoine lui promit de transmettre et n'en fit rien. Toute sollicitation était différée après la fin des représentations. Au bois, l'après-midi fut coquin pour les uns, malsain pour d'autres. Fabrice y décrivait la maîtresse de Saint-Loup, habitué des maisons de passe, connu du héros puisqu'il s'agissait de Rachel Camp du Seigneur, qui, se souvient-il, pour 20 francs ferait tout ce que je voudrais. Une simple petite grue. Une rencontre fortuite avec deux vulgaires poules de sa connaissance fait entrevoir à son amant une vie où on avait les femmes pour 1 louis, tandis qu'il donnait plus de 100 000 francs par an à Rachel, qu'il appelle Zézette.